Livre 5, La Reine Anne. Au-dessus de ce couple, il y avait Anne, reine d'Angleterre. La première femme venue, c'était la reine Anne. Elle était gaie, bienveillante, auguste, à peu près. Aucune de ses qualités n'atteignait à la vertu. Aucune de ses imperfections n'atteignait au mal. Son embonpoint était bouffi, sa malice était épaisse, sa bonté était bête. Elle était tenace et molle. Épouse, elle était infidèle et fidèle, ayant des favoris auxquels elle livrait son cœur et un consort auquel elle gardait son lit. Chrétienne, elle était hérétique et bigote. Elle avait une beauté, le cou robuste d'une niobée. Le reste de sa personne était mal réussi. Elle était gauchement coquette et honnêtement. Sa peau était blanche et fine, elle la montrait beaucoup. C'est d'elle que venait la mode du collier de grosses perles serrées au cou. Elle avait le front étroit, les lèvres sensuelles, les joues charnues, l'œil gros, la vue basse. Sa myopie s'étendait à son esprit. À part ça et là, un éclat de jovialité, presque aussi pesante que sa colère, elle vivait dans une sorte de gronderie taciturne et de silence grognon. Il lui échappait des mots qu'il fallait deviner. C'était un mélange de la bonne femme et de la méchante diablesse. Elle aimait l'inattendu, ce qui est profondément féminin. Anne était un échantillon à peine dégrossi de l'Ève universelle. À cette ébauche était échu ce hasard, le trône. Elle buvait. Son mari était un Danois de race. Tory, elle gouvernait par les White, en femme, en folle. Elle avait des rages. Elle était casseuse. Pas de personne plus maladroite pour manier les choses de l'État. Elle laissait tomber à terre les événements. Toute sa politique était fêlée. Elle était excellait à faire de grosses catastrophes avec de petites causes. Quand une fantaisie d'autorité lui prenait, elle appelait cela « donner le coup de poker ». Elle disait avec un air de profonde rêverie des paroles telles que celles-ci. « Aucun père ne peut être couvert devant le roi, excepté Courcy, baron Kinsale, père d'Irlande. » Elle disait « ce serait une injustice que mon mari ne fût pas lord amiral, puisque mon père l'a été. » Et elle faisait Georges de Danemark haut-amiral d'Angleterre. « And of all her majesty's plantations. » Elle était perpétuellement en transpiration de mauvaise humeur. Elle n'exprimait pas sa pensée. Elle l'exsudait. Il y avait du sphinx dans cette oie. Elle ne haïssait point le fun, la farce taquine et hostile. Si elle eût pu faire Apollon bossu, c'eût été sa joie. Mais elle l'eût laissé Dieu. Bonne, elle avait pour idéal de ne désespérer personne et d'ennuyer tout le monde. Elle avait souvent le mot cru, et un peu plus, elle eût juré comme Élisabeth. De temps en temps, elle prenait dans une poche d'homme qu'elle avait à sa jupe une petite boîte ronde d'argent repoussé, sur laquelle était son portrait de profil, entre les deux lettres Q-A, Queen Anne. Ouvrait cette boîte et en tirait avec le bout de son doigt un peu de pommade dont elle se rougissait les lèvres. Alors, ayant arrangé sa bouche, elle riait. Elle était très friande des pains d'épices plats de Zélande. Elle était fière d'être grasse. Puritaine, plutôt qu'autre chose, elle eût pourtant volontiers donné dans les spectacles. Elle eut une velléité d'académie de musique, copiée sur celle de France. En 1700, un Français nommé Fortcroche voulut construire à Paris un cirque royal, coûtant 400 000 livres, à quoi d'Argenson s'opposa. Ce Fortcroche passa en Angleterre et proposa à la reine Anne, qui en fut un moment séduite. L'idée de bâtir à Londres un théâtre-machine plus beau que celui du roi de France et ayant un quatrième dessous. Comme Louis XIV, elle aimait que son carrosse galopât. Ses attelages et ses relais faisaient quelquefois en moins de 5 quarts d'heure le trajet de Windsor à Londres. Du temps d'Anne, pas de réunion sans l'autorisation de 2 juges de paix. 12 personnes assemblées, fût-ce pour manger des huîtres et boire du porter, étaient en félonie. Sous ce règne, pourtant relativement débonnaire, la presse pour la flotte se fit avec une extrême violence. Sombre preuve que l'anglais est plutôt sujet que citoyen. Depuis des siècles, le roi d'Angleterre avait là un procédé de tyran qui démontait toutes les vieilles chartes de franchise et dont la France en particulier triomphait et s'indignait. Ce qui diminue un peu ce triomphe, c'est que, en regard de la presse des matelots en Angleterre, il y avait en France la presse des soldats. Dans toutes les grandes villes de France, tout homme valide allant par les rues à ses affaires était exposé à être poussé par les racoleurs dans une maison appelée four. Là, on l'enfermait pêle-mêle avec d'autres, on triait ce qui était propre au service, et les recruteurs vendaient ses passants aux officiers. En 1695, il y avait à Paris 30 fours. Les lois contre l'Irlande, émanées de la reine Anne, furent atroces. Anne était née en 1664, 2 ans avant l'incendie de Londres, sur quoi les astrologues, et il y en avait encore, témoin Louis XIV, qui naquit assisté d'un astrologue et emmailloté dans un horoscope, avait prédit qu'étant la sœur aînée du feu, elle serait reine. Elle le fut, grâce à l'astrologie et à la révolution de 1688. Elle était humiliée de n'avoir pour parrain que Gilbert, archevêque de Canterbury. Être filleule du pape n'était plus possible en Angleterre. Un simple primat est un parrain médiocre. Anne dut s'en contenter. C'était sa faute. Pourquoi était-elle protestante ? Le Danemark avait payé sa virginité, virginitas impta, comme disent les vieilles chartes, d'un douair de 6 250 livres sterling de rente, pris sur le bailliage de Wardenburg et sur l'île de Fermam. Anne suivait, par conviction et par routine, les traditions de Guillaume. Les Anglais, sous cette royauté née d'une révolution, avaient tout ce qui peut tenir de liberté entre la tour de Londres, où l'on mettait l'orateur, et le pilori, où l'on mettait l'écrivain. Anne parlait un peu danois, pour ses apartés avec son mari, et un peu français, pour ses apartés avec Bolingbroke. Pur baragouin. Mais c'était, à la cour surtout, la grande mode anglaise de parler français. Il n'y avait de bons mots qu'en français. Anne se préoccupait des monnaies, surtout des monnaies de cuivre, qui sont les basses et les populaires. Elle voulait y faire grande figure. 6 farthings furent frappés sous son règne. Au revers des 3 premiers, elle fit mettre simplement un trône. Au revers du 4e, elle voulut un char de triomphe. Et au revers du 6e, une déesse, tenant d'une main l'épée et de l'autre l'olivier, avec l'exergue Bello e Pace. Fille de Jacques II, qui était ingénue et féroce, elle était brutale. Et en même temps, au fond, elle était douce. Contradiction qui n'est qu'apparente. Une colère l'a métamorphosée. Chauffez le sucre, il bouillonnera. Anne était populaire. L'Angleterre aime les femmes régnantes. Pourquoi ? La France les exclut. C'est déjà une raison. Peut-être même n'y en a-t-il point d'autre. Pour les historiens anglais, Élisabeth, c'est la grandeur. Anne, c'est la bonté. Comme on voudra. Soit. Mais rien de délicat dans ces règnes féminins. Les lignes sont lourdes. C'est de la grosse grandeur et de la grosse bonté. Quant à leur vertu immaculée, l'Angleterre y tient. Nous ne nous y opposons point. Élisabeth est une vierge tempérée par Essex, et Anne est une épouse compliquée de Bolingbroke. Une habitude idiote qu'ont les peuples, c'est d'attribuer aux rois ce qu'ils font. Ils se battent. À qui la gloire? Au roi. Ils paient. Qui est magnifique? Le roi. Et le peuple l'aime d'être si riche. Le roi reçoit des pauvres un écu et rend aux pauvres un liard. Qu'il est généreux! Le colosse piédestal contemple le pygmée fardeau. Que Myrmidon est grand! Il est sur mon dos. Un nain a un excellent moyen d'être plus haut qu'un géant, c'est de se jucher sur ses épaules. Mais que le géant laisse faire, c'est là le singulier. Et qu'il admire la grandeur du nain, c'est là le bête. Naïveté humaine. La statue équestre, réservée au roi seul, figure très bien la royauté. Le cheval, c'est le peuple. Seulement, ce cheval se transfigure lentement. Au commencement, c'est un âne. À la fin, c'est un lion. Alors, il jette par terre son cavalier et l'on a 1642 en Angleterre et 1789 en France. Et quelquefois, il le dévore. Et l'on a en Angleterre 1649 et en France 1793. Que le lion puisse redevenir baudet, cela étonne. Mais cela est. Cela se voyait en Angleterre. On avait repris le bas de l'idolâtrie royaliste. La Queen Anne, nous venons de le dire, était populaire. Que faisait-elle pour cela? Rien. Rien, c'est là tout ce qu'on demande au roi d'Angleterre. Il reçoit pour ce rien-là une trentaine de millions par an. En 1705, l'Angleterre, qui n'avait que 13 vaisseaux de guerre sous Élisabeth et 36 sous Jacques Ier, en comptait 150. Les Anglais avaient 3 armées, 5000 hommes en Catalogne, 10000 en Portugal, 50000 en Flandre, et en outre, ils payaient 40 millions par an à l'Europe monarchique et diplomatique, sorte de fille publique que le peuple anglais a toujours entretenue. Le Parlement ayant voté un emprunt patriotique de 34 millions de rentes viagères, il avait eu presse à l'échiquier pour y souscrire. L'Angleterre envoyait une escadre aux Indes orientales et une escadre sur les côtes d'Espagne avec l'amiral Lake, sans compter un encas de 400 voiles sous l'amiral Showell. L'Angleterre venait de s'amalgamer l'Écosse. On était entre Hochstett et Ramillies. Et l'une de ses victoires faisait entrevoir l'autre. L'Angleterre, dans ce coup de filet de Hochstett, avait fait prisonnier 27 bataillons et 4 régiments de dragons et ôté 100 lieues de pays à la France, reculant éperdue du Danube au Rhin. L'Angleterre étendait la main vers la Sardaigne et les Baléares. Elle ramenait triomphalement dans ses ports 10 vaisseaux de ligne espagnole et force galions chargés d'or. La baie et le détroit d'Hudson étaient déjà à demi lâchés par Louis XIV. On sentait qu'il allait lâcher aussi l'Arcadie, Saint-Christophe et Terre-Neuve, et qu'il serait trop heureux si l'Angleterre tolérait au Cap-Breton le roi de France, pêchant la morue. L'Angleterre allait lui imposer cette honte de démolir lui-même les fortifications de Dunkerque. En attendant, elle avait pris Gibraltar et elle prenait Barcelone. Que de grandes choses accomplies! Comment ne pas admirer la reine Anne qui se donnait la peine de vivre pendant ce temps-là? À un certain point de vue, le règne d'Anne semble une réverbération du règne de Louis XIV. Anne, un moment parallèle à ce roi dans cette rencontre qu'on appelle l'histoire, a avec lui une vague ressemblance de reflet. Comme lui, elle joue au grand règne, elle a ses monuments, ses arts, ses victoires, ses capitaines, ses gens de lettres, sa cassette pensionnant les renommées, sa galerie de chefs-d'œuvre latérale à sa majesté. Sa cour, à elle aussi, fait cortège et a un aspect triomphal, un ordre et une marche. C'est une réduction en petit de tous les grands hommes de Versailles, déjà pas très grands. Le trompe-l'œil y est, qu'on y ajoute le God Save the Queen, qui eût pu dès lors être prise à Lully, et l'ensemble fait illusion. Pas un personnage ne manque. Christophe Rouen est un mansard fort passable, Somers vaut la moignon, Anne a un Racine qui est Dryden, un Boileau qui est Pop, un Colbert qui est Godolphin, un Louvois qui est Pembroke, et un Turenne qui est Marlborough. Grandissez les perruques pourtant, et diminuez le front. Le tout est solennel et pompeux, et Windsor, à cet instant-là, aurait presque un faux air de Marly. Pourtant, tout est féminin. Et le père Tellier d'Anne s'appelle Sarah Jennings. Du reste, un commencement d'ironie qui, 50 ans plus tard, sera la philosophie, s'ébauche dans la littérature. Et le Tartuffe protestant est démasqué par Swift, de même que le Tartuffe catholique a été dénoncé par Molière. Bien qu'à cette époque l'Angleterre querelle et batte la France, elle l'imite et elle s'en éclaire. Et ce qui est sur la façade de l'Angleterre, c'est de la lumière française. C'est dommage que le règne d'Anne n'ait duré que 12 ans, sans quoi les Anglais ne se feraient pas beaucoup prier pour dire le siècle d'Anne, comme nous disons le siècle de Louis XIV. Anne apparaît en 1702 quand Louis XIV décline. C'est une des curiosités de l'histoire que le lever de cet astre pâle coïncide avec le coucher de l'astre de pourpre, et qu'à l'instant où la France avait le roi soleil, l'Angleterre ait eu la reine lune. Détail qu'il faut noter. Louis XIV, bien qu'on fût en guerre avec lui, était fort admiré en Angleterre. « C'est le roi qu'il faut à la France », disaient les Anglais. L'amour des Anglais pour leur liberté se complique d'une certaine acceptation de la servitude d'autrui. Cette bienveillance pour les chaînes qui attachent le voisin va quelquefois jusqu'à l'enthousiasme pour le despote d'à côté. En somme, Anne a rendu son peuple heureux, comme le dit à 3 reprises et avec une gracieuse insistance, pages 6 et 9 de sa dédicace et page 3 de sa préface, le traducteur français du livre de Beverwell. La reine Anne en voulait un peu à la duchesse Josiane pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'elle trouvait la duchesse Josiane jolie. Deuxièmement, parce qu'elle trouvait joli le fiancé de la duchesse Josiane. 2 raisons pour être jalouse suffisent à une femme. Une seule suffit à une reine. Ajoutons ceci, elle lui en voulait d'être sa sœur. Anne n'aimait pas que les femmes fussent jolies. Elle trouvait cela contraire aux mœurs. Quant à elle, elle était laide. Non par choix pourtant. Une partie de sa religion venait de cette laideur. Josiane, belle et philosophe, importunait la reine. Pour une reine laide, une jolie duchesse n'est pas une sœur agréable. Il y avait un autre grief, la naissance impropre de Josiane. Anne était fille d'Anne Hyde, simple lady, légitimement, mais fâcheusement épousée par Jacques II, lorsqu'il était duc d'York. Anne, ayant de ce sang inférieur dans les veines, ne se sentait qu'à demi-royale. Et Josiane, venue au monde tout à fait irrégulièrement, soulignait l'incorrection, moindre mais réelle, de la naissance de la reine. La fille de la mésalliance voyait sans plaisir, pas très loin d'elle, la fille de la bâtardise. Il y avait là une ressemblance désobligeante. Josiane avait le droit de dire à Anne « Ma mère vaut bien la vôtre ». À la cour, on ne le disait pas, mais évidemment, on le pensait. C'était ennuyeux pour la majesté royale. Pourquoi cette Josiane? Quelle idée avait-elle eue de naître? À quoi bon une Josiane? De certaines parentés sont diminuantes. Pourtant, Anne faisait bon visage à Josiane. Peut-être l'eût-elle aimée si elle n'eût été sa sœur. Thank you. Livre 6, Barkilphedro. Il est utile de connaître les actions des personnes, et quelques surveillances est sage. Josiane faisait un peu espionner Lord David par un homme à elle, en qui elle avait confiance et qui se nommait Barkilphedro. Lord David faisait discrètement observer Josiane par un homme à lui, dont il était sûr et qui se nommait Barkilphedro. La reine Anne, de son côté, se faisait secrètement tenir au courant des faits et gestes de la duchesse Josiane, sa sœur bâtarde, et de Lord David, son futur beau-frère, de la main gauche par un homme à elle, sur qui elle comptait pleinement, et qui se nommait Barkilphedro. Ce Barkilphedro avait sous la main ce clavier, Josiane, Lord David, la reine. Un homme entre deux femmes. Que de modulations possibles! Quel amalgame d'âmes! Barkilphedro n'avait pas toujours eu cette situation magnifique de parler bas à trois oreilles. C'était un ancien domestique du duc d'York. Il avait tâche d'être homme d'église, mais avait échoué. Le duc d'York, prince anglais et romain, composé de papisme royal et d'anglicanisme légal, avait sa maison catholique et sa maison protestante, et eût pu pousser Barkilphedro dans l'une ou l'autre hiérarchie. Mais il ne le jugea point assez catholique pour le faire aumônier, et pas assez protestant pour le faire chapelain. De sorte que Barkilphedro se trouva entre deux religions, l'âme par terre. Ce n'est point une posture mauvaise pour de certaines âmes reptiles. De certains chemins ne sont faisables qu'à plat ventre. Une domesticité obscure, mais nourrissante, fut longtemps toute l'existence de Barkilphedro. La domesticité, c'est quelque chose, mais il voulait de plus la puissance. Il allait peut-être y arriver quand Jacques II tomba. Tout était à recommencer. Rien à faire sous Guillaume III, maussade, et ayant dans sa façon de régner une pruderie qu'il croyait de la probité. Barkilphedro, son protecteur Jacques détrôné, ne fut pas tout de suite en guenille. Un je ne sais quoi qui survit aux princes déchus alimente et soutient quelque temps leurs parasites. Le reste de sève épuisable fait vivre deux ou trois jours au bout des branches les feuilles de l'arbre déraciné. Puis tout à coup la feuille jaunit et sèche, et le courtisan aussi. Grâce à cet embaumement qu'on nomme légitimité, le prince, lui, quoique tombé et jeté au loin, persiste et se conserve. Il n'en est pas de même du courtisan, bien plus mort que le roi. Le roi là-bas est momie, le courtisan ici est fantôme. Être l'ombre d'une ombre, c'est là une maigreur extrême. Donc Barkilphedro devint famélique. Alors il prit la qualité d'homme de lettres. Mais on le repoussait même des cuisines. Quelquefois il ne savait où coucher. « Qui me tirera de la belle étoile ?» disait-il. Et il luttait. Tout ce que la patience dans la détresse a d'intéressant, il l'avait. Il avait de plus le talent du termite, savoir faire une trouée de bas en haut. En s'aidant du nom de Jacques II, des souvenirs, de la fidélité, de l'attendrissement, etc., il perça jusqu'à la duchesse Josiane. Josiane prit en gré cet homme qui avait de la misère et de l'esprit. Deux choses qui émeuvent. Elle le présenta à Lord Dairymoir, lui donna gîte dans ses communs, le tint pour de sa maison, fut bonne pour lui, et quelquefois même lui parla. Barkilphedro n'eut plus ni faim ni froid. Josiane le tutoyait. c'était la mode des grandes dames de tutoyer les gens de lettres qui se laissaient faire. La marquise de Mailly recevait Coucher, roi qu'elle n'avait jamais vu, et lui disait « C'est toi qui as fait l'année galante ? Bonjour !» Plus tard, les gens de lettres rendirent le tutoiement. Un jour vint où Fabre d'Églantine dit à la duchesse de Rohan « N'es-tu pas le Chabot ?» Pour Barkilphedro, être tutoyé, c'était un succès. Il en fut ravi. Il avait ambitionné cette familiarité de haut en bas. « Lady Josiane me tutoie !» se disait-il, et il se frottait les mains. Il profita de ce tutoiement pour gagner du terrain. Il devint une sorte de familier des petits appartements de Josiane, point gênant, inaperçu. La duchesse eut presque changé de chemise devant lui. Tout cela pourtant était précaire. Barkilphedro visait à une situation. Une duchesse, c'est à moitié chemin. Une galerie souterraine qui n'arrivait pas jusqu'à la reine, c'était de l'ouvrage manqué. Un jour, Barkilphedro dit à Josiane « Votre grâce voudrait-elle faire mon bonheur ?»«
Qu'est-ce que tu veux ?»
demanda Josiane.
« Un emploi. »
« Un emploi à toi ?»«
Oui, madame. » »«
Quelle idée as-tu de demander un emploi ? Tu n'es bon à rien. » »«
C'est pour cela. » Josiane se mit à rire.
« Dans les fonctions auxquelles tu n'es pas propre, laquelle désires-tu ? » ?»«
Celle de déboucheur de bouteilles de l'océan. »
Le rire de Josiane redoubla. « Qu'est-ce que cela ? Tu te moques ?»«
Non, madame. »«
Je vais m'amuser à te répondre sérieusement, » dit la duchesse. « Qu'est-ce que tu veux être ? Répète. »«
Déboucheur de bouteilles de l'océan. »
« Tout est possible à la cour. Est-ce qu'il y a un emploi comme cela ?»«
Oui, madame. »«
Apprends-moi des choses nouvelles. Continue. »«
C'est un emploi qui est. »«
Jure-le-moi sur l'âme que tu n'as pas. »«
Je le jure. »«
Je ne te crois point. »«
Merci, madame. »«
Donc tu voudrais... Recommence. »
Décacheter les bouteilles de la mer.
Voilà une fonction qui ne doit pas donner grande fatigue. C'est comme peigner le cheval de bronze.
À peu près.
Ne rien faire. C'est en effet la place qu'il te faut. Tu es bon à cela.
Vous voyez que je suis propre à quelque chose.
Ah ça, tu bouffonnes. La place existe-t-elle ?
Barkilphedro prit l'attitude de la gravité déférente.
« Madame, vous avez un père auguste, Jacques II, roi, et un beau-frère illustre, Georges de Danemark, duc de Cumberland. Votre père a été et votre beau-frère est Lord Amiral d'Angleterre. »«
Sont-ce là les nouveautés que tu viens m'apprendre ? Je sais cela aussi bien que toi. »
Mais voici ce que votre grâce ne sait pas. Il y a dans la mer trois sortes de choses. Celles qui sont au fond de l'eau, lagons. Celles qui flottent sur l'eau, flotson. Et celles que l'eau rejette sur la terre, jetson.
Après ?
Ces trois choses-là, lagon, flotson, jetson, appartiennent au Lord Haut-Amiral.
Après ?
Votre grâce comprend.
Non ?
Tout ce qui est dans la mer, ce qui s'engloutit, ce qui surnage et ce qui s'échoue, tout appartient à l'amiral d'Angleterre.
Tout, soit. Ensuite ?
Excepté l'esturgeon qui appartient au roi.
J'aurais cru, dit Josiane, que tout cela appartenait à Neptune.
Neptune est un imbécile, il a tout lâché, il a tout laissé prendre aux Anglais.
Conclus.
Les prises de mer, c'est le nom qu'on donne à ces trouvailles-là.
Soit.
C'est inépuisable,
Il y a toujours quelque chose qui flotte, quelque chose qui aborde. C'est la contribution de la mer. La mer paie impôt à l'Angleterre.
Je veux bien, mais conclue.
Votre grâce comprend que de cette façon, l'océan crée un bureau.
Où ça?
À l'Amirauté.
Quel bureau?
Le bureau des prises de mer.
Eh bien?
Le bureau se subdivise en trois offices, lagon, flotson, jetson. Et pour chaque office, il y a un officier.
Et puis?
Un navire en pleine mer veut donner un avis quelconque à la terre. Qu'il navigue en telle latitude, qu'il rencontre un monstre marin, qu'il est en vue d'une côte, qu'il est en détresse, qu'il va sombrer, qu'il est perdu, etc. Le patron prend une bouteille, met dedans un morceau de papier où il a écrit la chose, cachette le goulot et jette la bouteille à la mer. Si la bouteille va au fond, cela regarde l'officier lagon. Si elle flotte, cela regarde l'officier flotson. Si elle est portée à terre par les vagues, cela regarde l'officier jetson.
Et tu voudrais être l'officier jetson?
Précisément.
Et c'est ce que tu appelles être déboucheur de bouteilles de l'océan?
Puisque la place existe.
Pourquoi désires-tu cette dernière place plutôt que les deux autres?
Parce qu'elle est vacante en ce moment.
En quoi consiste l'emploi?
Madame, en 1598, une bouteille goudronnée trouvée par un pêcheur de Congres dans les sables d'échouage d'Epidium Promotorium fut portée à la reine Élisabeth, et un parchemin qu'on tira de cette bouteille fit savoir à l'Angleterre que la Hollande avait pris, sans rien dire, un pays inconnu, la Nouvelle-Zemble, Nova Zembla, que cette prise avait eu lieu en juin 1596, que dans ce pays-là on était mangé par les ours, et que la manière d'y passer l'hiver était indiquée sur un papier enfermé dans un étui de mousquet, suspendu dans la cheminée de la maison de bois bâtie dans l'île et laissée par les Hollandais qui étaient tous morts, et que cette cheminée était faite d'un tonneau défoncé, emboîté dans le toit.
Je comprends peu ton amphigourie.
Soit, Élisabeth comprit. Un pays de plus pour la Hollande, c'était un pays de moins pour l'Angleterre. La bouteille qui avait donné la vie fut tenue pour chose importante. Et à partir de ce jour, ordre fut intimé à quiconque trouverait une bouteille cachetée au bord de la mer de la porter à l'amiral d'Angleterre, sous peine de potence. L'amiral commet pour ouvrir ces bouteilles-là un officier, lequel informe du contenu Sa Majesté, s'il y a lieu.
Arrive-t-il souvent de ces bouteilles à l'amirauté?
Rarement, mais c'est égal, la place existe. Il y a pour la fonction chambre et logis à l'amirauté.
Et cette manière de ne rien faire, combien la paie-t-on?
100 guinées par an.
Tu me déranges pour cela.
C'est de quoi vivre?
Gueusement.
Comme il sied à ceux de ma sorte.
100 guinées, c'est une fumée!
Ce qui vous fait vivre une minute nous fait vivre un an, nous autres. C'est l'avantage qu'ont les pauvres.
Tu auras la place.
8 jours après, grâce à la bonne volonté de Josiane, grâce au crédit de Lord David d'Airimoire, Barkilphedro, sauvé désormais, tiré du provisoire, posant maintenant le pied sur un terrain solide, logé, défrayé, renté de 100 guinées, était installé à l'amirauté.
Livre 7. Barkilphedro, Perse.
Il y a d'abord une chose pressée, c'est d'être ingrat. Barkilphedro n'y manqua point. Ayant reçu tant de bienfaits de Josiane, naturellement il n'eut qu'une pensée, s'en venger.
Ajoutons que Josiane était belle, grande, jeune, riche, puissante, illustre, et que Barkilphedro était laid, petit, vieux, pauvre, protégé, obscur. Il fallait bien aussi qu'il se vengeât de cela. Quand on n'est fait que de nuit, comment pardonner tant de rayons ? Barkilphedro était un Irlandais qui avait renié l'Irlande. Mauvaise espèce. Barkilphedro n'avait qu'une chose en sa faveur, c'est qu'il avait un très gros ventre. Un gros ventre passe pour signe de bonté. Mais ce ventre s'ajoutait à l'hypocrisie de Barkilphedro, car cet homme était très méchant. Quel âge avait Barkilphedro ? Aucun. L'âge nécessaire à son projet du moment. Il était vieux par les rides et les cheveux gris, et jeune par l'agilité d'esprit. Il était leste et lourd, sorte d'hippopotame singe. Royaliste, certes. Républicain, qui sait ? Catholique, peut-être. Protestant, sans doute. Pour Stuart, probablement. Pour Brunswick, évidemment. Être pour n'est une force qu'à la condition d'être en même temps contre. Barkilphedro pratiquait cette sagesse. La place de déboucheur de bouteilles de l'océan n'était pas aussi risible qu'avait semblé le dire Barkilphedro. Les réclamations, qu'aujourd'hui on qualifierait d'éclamations, de Garcia Fernandez dans son routier de la mer contre la spoliation des échouages, dites droits de bris, et contre le pillage des épaves par les gens des côtes, avaient fait sensation en Angleterre et avaient amené pour les naufragés ce progrès que leurs biens, effets et propriétés, au lieu d'être volés par les paysans, étaient confisqués par le Lord Amiral. Tous les débris de mer jetés à la rive anglaise, marchandises, carcasses de navires, ballots, caisses, etc., appartenaient au Lord Amiral. Mais, et ici se révélait l'importance de la place sollicitée par Barkilphedro, les récipients flottants contenant des messages et des informations éveillaient particulièrement l'attention de l'amirauté. Les naufrages sont une des graves préoccupations de l'Angleterre. La navigation étant sa vie, le naufrage est son souci. L'Angleterre a la perpétuelle inquiétude de la mer. La petite fiole de verre que jette aux vagues un navire en perdition contient un renseignement suprême, précieux sur tous les points de vue. Renseignements sur le bâtiment, renseignements sur l'équipage, renseignements sur le lieu, l'époque et le mode du naufrage, renseignements sur les vents qui ont brisé le vaisseau, renseignements sur les courants qui ont porté la fiole flottante à la côte. La fonction que Barkilphedro occupait a été supprimée il y a plus d'un siècle, mais elle avait une véritable utilité. Le dernier titulaire fut William Hussey de Doddington en Lincoln. L'homme qui tenait cet office était une sorte de rapporteur des choses de la mer. Tous les vases, fermés et cachetés, bouteilles, fioles, jarres, etc., jetés au littoral anglais par le flux, lui étaient remis. Il avait seul droit de les ouvrir. Il était le premier dans le secret de leur contenu. Il les classait et les étiquetait dans son greffe. L'expression « loger un panier au greffe », encore usitée dans les îles de la Manche, vient de là. À la vérité, une précaution avait été prise. Aucun de ces récipients ne pouvait être décacheté et débouché qu'en présence de deux jurés de l'amirauté assermentés au secret, lesquels signaient, conjointement avec le titulaire de l'office Geston, le procès-verbal d'ouverture. Mais ces jurés étaient tenus au silence. Il en résultait, pour Barkilphedro, une certaine latitude discrétionnaire. Il dépendait de lui, jusqu'à un certain point, de supprimer un fait ou de le mettre en lumière. Ces fragiles épaves étaient loin d'être, comme Barkilphedro l'avait dit à Josiane, rares et insignifiantes. Tantôt elles atteignaient la terre assez vite, tantôt après des années. Cela dépendait des vents et des courants. Cette mode des bouteilles jetées à volo a un peu passé comme celle des ex-voto. Mais dans ces temps religieux, ceux qui allaient mourir envoyaient volontiers de cette façon leur dernière pensée à Dieu et aux hommes. Et parfois, ces missives de la mer abondaient l'amirauté. Un parchemin conservé au château d'Audelienne, vieille orthographe, et annoté par le comte de Suffolk, grand trésorier d'Angleterre sous Jacques Ier, constate qu'en la seule année 1615, 52 gourdes, ampoules et fibules goudronnées, contenant des mentions de bâtiments en perdition, furent apportées et enregistrées au greffe du Lord Amiral. Les emplois de cour sont la goutte d'huile, ils vont toujours s'élargissant. C'est ainsi que le portier est devenu le chancelier et que le palefrenier est devenu le connétable. L'officier spécial, chargé de la fonction souhaitée et obtenue par Barkilphedro, était habituellement un homme de confiance. Élisabeth l'avait voulu ainsi. À la cour, qui dit confiance, dit intrigue, et qui dit intrigue, dit croissance. Ce fonctionnaire avait fini par être un peu un personnage. Il était clair et prenait rang immédiatement après les deux grooms de l'aumônerie. Il avait ses entrées au palais. Pourtant, disons-le, ce qu'on appelait l'entrée humble, humilis introitus, et jusque dans la chambre de lit. Car l'usage était qu'il informa la personne royale, quand l'occasion en valait la peine, de ses trouvailles, souvent très curieuses, testament de désespérés, adieux jetés à la patrie, révélations de baratrie et de crimes de mer, l'aigle, la couronne, etc. Qu'il maintint son greffe en communication avec la cour et qu'il rendit de temps en temps compte à Sa Majesté de ce décachetage de bouteilles sinistres. C'était le cabinet noir de l'océan. Élisabeth, qui parlait volontiers latin, demandait à Tamfel de Coley en Berkshire, l'officier Jetson de son temps, lorsqu'il lui apportait quelqu'une de ses paperasses sorties de la mer. « Quid mi scribit Neptunus ?»« Qu'est-ce que Neptune m'écrit ?» La percée était faite. Le termite avait réussi. Barkilphedro approchait la reine. C'était tout ce qu'il voulait. Pour faire sa fortune ? Non. Pour défaire celle des autres. Bonheur plus grand. Nuire, c'est jouir. Avoir en soi un désir de nuire, vague mais implacable, et ne le jamais perdre de vue. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Barkilphedro avait cette fixité. L'adhérence de gueule qu'a le bouledogue, sa pensée l'avait. Se sentir inexorable lui donnait un fond de satisfaction sombre. Pourvu qu'il eût une proie sous la dent, ou dans l'âme une certitude de mal faire, rien ne lui manquait. Il grelottait, content, dans l'espoir du froid d'autrui. Être méchant, c'est une opulence. Tel homme qu'on croit pauvre, et qu'il est en effet, a toute sa richesse en malice et la préfère ainsi. Tout est dans le contentement qu'on a. Faire un mauvais tour, qui est la même chose qu'un bon tour, c'est plus que de l'argent. Mauvais pour qui l'endure, bon pour qui le fait. Catesby, le collaborateur de Guy Fawkes, dans le comptoir papiste des poudres, disait « Voir sauter le Parlement les quatre fers en l'air, je ne donnerais pas cela pour 1 million sterling. » Qu'était-ce que Barkilphedro ? Ce qu'il y a de plus petit et ce qu'il y a de plus terrible. Un envieux. L'envie est une chose dont on a toujours le placement à la cour.
La cour abonde en impertinents, en désœuvrés, en riches fainéants affamés de commérages, en chercheurs d'aiguilles dans les bottes de foin, en faiseurs de misère, en moqueurs moqués, en niais spirituels, qui ont besoin de la conversation d'un envieux. Quelle chose rafraîchissante que le mal qu'on vous dit des autres. L'envie est une bonne étoffe à faire un espion. Il y a une profonde analogie entre cette passion naturelle, l'envie, et cette fonction sociale, l'espionnage. L'espion chasse pour le compte d'autrui, comme le chien. L'envieux chasse pour son propre compte, comme le chat. Un moi féroce, c'est là tout l'envieux. Autre qualité, Barkilphedro était discret, secret, concret. Il gardait tout et se creusait de sa haine. Une énorme bassesse implique une énorme vanité. Il était aimé de ceux qui l'amusaient et haï des autres. Mais il se sentait dédaigné par ceux qui le haïssaient et méprisé par ceux qui l'aimaient. Il se contenait. Tous ses froissements bouillonnaient sans bruit dans sa résignation hostile. Il était indigné, comme si les coquins avaient ce droit-là. Il était silencieusement en proie aux furies. Tout avaler, c'était son talent. Il avait de sourds courroux intérieurs, des frénésies de rage souterraines, des flammes couvées et noires, dont on ne s'apercevait pas. C'était un colérique fumivore. La surface souriait. Il était obligeant, empressé, facile, aimable, complaisant. N'importe qui et n'importe où, il saluait. Pour un souffle de vent, il s'inclinait jusqu'à terre. Avoir un roseau dans la colonne vertébrale, quelle source de fortune! Ces êtres cachés et vénéneux ne sont pas si rares qu'on le croit. Nous vivons entourés de glissements sinistres. Pourquoi les malfaisants? Question poignante. Le rêveur se la pose sans cesse et le penseur ne la résout jamais. De là, l'œil triste des philosophes toujours fixé sur cette montagne de ténèbres qui est la destinée et du haut de laquelle le colossal spectre du mal laisse tomber des poignées de serpents sur la terre. Barkilphedro avait le corps obèse et le visage maigre, torse gras et face osseuse. Il avait les ongles cannelés et courts, les doigts noueux, les pouces plats, les cheveux gros, beaucoup de distance d'une tempe à l'autre, et un front de meurtrier, large et bas. L'œil bridé cachait la petitesse de son regard sous une broussaille de sourcils. Le nez long, pointu, bossu et mou, s'appliquait presque sur la bouche. Barkilphedro, convenablement vêtu en empereur, eût un peu ressemblé à Domitien. Sa face, d'un jaune rance, était comme modelée dans une pâte visqueuse. Ses joues immobiles semblaient de mastic. Il avait toutes sortes de vilaines rides réfractaires. L'angle de la mâchoire massif, le menton lourd, l'oreille canaille. Au repos, de profil, sa lèvre supérieure relevée en angle aigu laissait voir deux dents. Ses dents avaient l'air de vous regarder. Les dents regardent, de même que l'œil mord. Patience, tempérance, continence, réserve, retenue, aménité, déférence, douceur, politesse, sobriété, chasteté, complétait et achevait Barkilphedro. Il calomniait ses vertus en les ayant. En peu de temps, Barkilphedro prit pied à la cour.
Livre 8, Inferi. On peut à la cour prendre pied de deux façons. Dans les nuées, on est auguste. Dans la boue, on est puissant. Dans le premier cas, on est de l'Olympe. Dans le second cas, on est de la garde-robe. Qui est de l'Olympe n'a que la foudre. Qui est de la garde-robe a la police. La garde-robe contient tous les instruments de règne. Et parfois, car elle est traître, le châtiment. Héliogabale y vient mourir. Alors, elle s'appelle les latrines. D'habitude, elle est moins tragique. C'est là qu'Alberoni admire Vendôme. La garde-robe est volontiers le lieu d'audience des personnes royales. Elle fait fonction de trône. Louis XIV y reçoit la duchesse de Bourgogne. Philippe V y est coude à coude avec la reine. Le prêtre y pénètre. La garde-robe est parfois une succursale du confessionnal. C'est pourquoi il y a à la cour les fortunes du dessous. Ce ne sont pas les moindres. Si vous voulez, sous Louis XI, être grand, soyez Pierre de Rohan, maréchal de France. Si vous voulez être influent, soyez Olivier Le Dain, barbier. Si vous voulez, sous Marie de Médicis, être glorieux, soyez Sillery, chancelier. Si vous voulez être considérable, soyez la Hannon, femme de chambre. Si vous voulez, sous Louis XV, être illustre, soyez Choiseul, ministre. Si vous voulez être redoutable, soyez Lebel, valet. Étant donné Louis XIV, Bontemps, qui lui fait son lit, est plus puissant que Louvois, qui lui fait ses armées, et que Turenne, qui lui fait ses victoires. De Richelieu, ôtez le père Joseph, voilà Richelieu presque vide. Il a de moins le mystère. L'éminence rouge est superbe, l'éminence grise est terrible. Être un ver, quelle force! Tous les Narvaez amalgamés avec tous les O'Donnell font moins de besogne qu'une sœur Patrocinio. Par exemple, la condition de cette puissance, c'est la petitesse. Si vous voulez rester fort, restez chétif, soyez le néant. Le serpent au repos, couché en rond, figure à la fois l'infini et zéro. Une de ses fortunes vipérimes était échue à Barkilphedro. Il s'était glissé où il voulait. Les bêtes plates entrent partout. Louis XIV avait des punaises dans son lit et des jésuites dans sa politique. D'incompatibilité, point. En ce monde, tout est pendule. Gravité, c'est osciller. Un pôle vaut l'autre. François Ier veut Triboulet, Louis XV veut Lebel. Il existe une affinité profonde entre cette extrême hauteur et cet extrême abaissement. C'est l'abaissement qui dirige. Rien de plus aisé à comprendre. Qui est dessous tient les fils. Pas de position plus commode. On est l'œil et on a l'oreille. On est l'œil du gouvernement, on a l'oreille du roi. Avoir l'oreille du roi, c'est tirer et pousser à sa fantaisie le verrou de la conscience royale et fourrer dans cette conscience ce qu'on veut. L'esprit du roi, c'est votre armoire. Si vous êtes chiffonnier, c'est votre hôte. L'oreille des rois n'est pas au roi. C'est ce qui fait qu'en somme, ces pauvres diables sont peu responsables. Qui ne possède pas sa pensée, ne possède pas son action. Un roi, cela obéit. À quoi ? À une mauvaise âme quelconque qui, du dehors, lui bourdonne dans l'oreille. Mouche sombre de l'abîme. Ce bourdonnement commande. Un règne est une dictée. La voix haute, c'est le souverain. La voix basse, c'est la souveraineté. Ceux qui, dans un règne, savent distinguer cette voix basse et entendre ce qu'elle souffle à la voix haute sont les vrais historiens.